Et salut à toutes et salut à tutti, bienvenue pour ce 6e épisode de Game Lovers. Alors, je dois commencer par dire une petite chose. C'est qu'en réalité, avec notre petite habitude de couper nos épisodes en deux, la fois dernière c'était déjà la 10e. Et on n'a même pas célébré la 10e émission de notre petit bébé. Et ben vous savez quoi, pour mettre comme ça en exergue notre succès, parce qu'on fait déjà des millions de vues sur les réseaux, on a quand même réussi la prouesse de faire venir Fred
en avion
avec nous à Calvi. Et d'ailleurs, avant même de vous parler du titre, du thème de l'émission, on va l'introduire en musique parce qu'on l'a dit la dernière fois, la valeur de production augmente d'émission en émission. Donc ça, mon Fredo, c'est pour toi.
C'est gentil. Un classique de la chanson française. Ils n'ont pas peur des mots.
Du top 50
rien. Top 50. Ah
ben, alors, est-ce que ça plane pour toi, mon Fredo?
Ça plane pour moi, toujours.
Ça souffle pas trop. Ouais.
Quand ça souffle pas trop, ça va, ça plane bien.
Ça a soufflé aujourd'hui?
Non, très calme.
Sur le trajet,
très calme. Marseille-Calvi aujourd'hui, très calme.
Magnifique, on s'est posé tout en délicatesse. Avec nous, également aujourd'hui, on a le... Je ne sais même plus comment l'appeler, tellement il est présent.
Le boss.
Non. On lui a aussi.
C'est prévu, un plaisir de venir là.
Donc. On lui a aussi prévu une petite intro musicale qu'on vous laisse apprécier.
Une musique de boss.
Vous allez deviner de qui il s'agit. Enfin. Je pense que lui il sait de qui il s'agit. Cela ne fait rien, on s'amuse. Bastia est parti à Lisbonne, les cloches. C'est Jonathan qui est là.
Oui.
Comment il va, mon John?
Ça va.
Ça va, rien de particulier cette semaine.
Alors, c'est pas ma chanson, ça plane aussi.
Mais pourquoi c'était pas ta chanson?
Parce que ça plane, c'est pas ma chanson.
Je l'ai castée pour toi.
Oui, non, celle-là, c'est la mienne, la première.
Et enfin, un dernier habitué aussi. Hein. Ça doit être le deuxième plus assidu de l'émission après toi, je pense. Oh. Je ne me compte pas d'ailleurs, hein, dans notre petit comptage.
Il vient réduire.
Il est là avec nous, on va aussi l'introduire en musique. Si j'y arrive, oui, j'y arrive. Celle-ci, elle est pour Sébastien, celle-ci.
Et bonjour tout le monde, donc. C'est à peu près ça, oui.
C'est sa vie de conseiller pédagogique sur la route. Voilà, comment il va, Seb?
Ça va.
Une bonne journée, une bonne semaine sur la route.
Oui, hein, c'est commencé déjà.
On the road again.
Demain non, par contre.
Et bien nous aussi, on va se mettre en route. Mais d'abord, est-ce que je m'introduis moi-même?
Ah oui, bien sûr.
Ouais, parce qu'ils m'ont choisi.
Ton thème musical
aussi. Les copains,
aussi.
Ils sont sympas. Ils m'ont choisi aussi une petite chanson. Que voici. Voilà. Hein. Ils m'ont choisi les cloches du village. Les cloches du village. Pour me dire adieu.
Un classique de la chanson française.
Un
autre
française.
Classique.
Alors, adieu du podcast, peut-être, je sais pas.
Peut-être la dernière.
Voilà. Je sais pas s'ils feront la farandole pour moi demain à l'école. J'étais pas en classe aujourd'hui, hein. J'étais déchargé, très cher. Demain, ils me diront adieu, les enfants. C'était donc Hugo Frey. C'était Hugo Frey. Adieu, monsieur le professeur.
Ah, je ne sais pas.
Ah, il me semble. Bien. Bon, laissons là la chanson française. Car aujourd'hui, pour ce 6e épisode, qu'on a intitulé, je ne sais plus comment, si je vais vous le dire tout de suite, on a intitulé Amour de jeunesse, parce que on va parler d'une tendance qui est très prégnante dans le jeu vidéo depuis bien longtemps. Ça passe pour être quelque chose de récent, mais c'est en fait pas si récent que ça. C'est cette tendance à remixer, refaire, remasteriser des jeux de notre enfance, mais aussi de l'enfance de gens qui sont parfois même plus âgés que nous, voire même de gens plus jeunes, qui ont une douzaine ou une quinzaine d'années, qui ont déjà droit
au
remake de quand ils étaient plus jeunes.
Ou remaster.
On va se poser la question déjà de... Y a-t-il des réussites et des échecs? Est-ce que cette tendance, c'est juste une tendance économique? On va évidemment évoquer quelques, quelques exemples, hein, certains de ces jeux parmi les plus classiques, les plus iconiques, mais aussi des ratés complets parce qu'il y en a eu.
Il y avait.
Et des fois, la tentation de faire un bifton est malheureusement un peu trop
la pas du gain,
présente. La pas du gain, parfois, pervertit un petit peu.
Ou même le fait de relancer une franchise non maîtrisée et qui
et ça donne casse.
Un, oui.
Oui, parce qu'il y a des fois des franchises qui étaient adaptées à une certaine époque, on essaie de les relancer et puis ça prend pas.
Ça marche pas.
10 ou 20 ans plus tard. Les vieilles gloires ont-elles toujours la côte? Est-ce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures?
Joli.
Hein, et on va se poser la question. On va se poser la question. Alors, je vais d'abord donner la parole à Fredo parce qu'il a bossé son lexique.
J'ai fait un peu de recherche de vocabulaire.
Il a bossé, je vous raconte pas. Il a des petites fiches Bristol devant lui. Il a renseigné le conducteur, mais c'est aux petits oignons. Les autres, ils ont pas fait grand chose.
Non, on en a parlé hors antenne. Non, ils ont bossé.
On en a beaucoup parlé entre nous. Et puis, ce sont des intuitifs.
Ils ont tout dans la tête. Ils ont pas besoin d'écrire.
Ils sont instinctifs. Fredo, essayons d'abord de faire un petit point de vocabulaire, parce que pour ceux qui nous écoutent, si on jette les termes comme ça, remake, remaster, demake, qui j'en oubliais en route.
Demake
est encore plus
pointu. C'est encore plus pointu.
Alors, remake, remaster, reboot, portage.
Portage.
Il y en a pour tous les goûts.
Il y en a pour tous les goûts.
Alors, vas-y, fais-nous un petit
point. En fait, les portages, là, on est tous d'accord, on en a parlé tout à l'heure. Les portages, il y en a toujours eu dans l'histoire du jeu vidéo, dès le début, en fait.
Alors, le portage.
On commence par expliquer en quoi ça consiste.
C'était vraiment le fait de prendre un jeu qui était souvent sur borne d'arcade au début, qu'on mettait sur les différentes consoles ou les ordinateurs de l'époque.
Mais un jeu qu'on gardait à l'identique.
À l'identique, et on jouait sur les capacités techniques de la console, en moins bien ou en mieux, selon les jeux.
Mais en réalité,
mais le jeu restait le même.
Le jeu reste le même.
C'était un copier-coller, voilà.
C'est-à-dire que, bon, si vous n'êtes pas familier de la conception de jeux vidéo, ce qui est normal, hein, on ne l'est pas tous, et même nous, on ne fait qu'en parler, mais en définitive, on ne fabrique pas de jeux. Mais ce qu'il faut essayer d'imaginer, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un code source à la base d'un jeu, c'est-à-dire un code entier. Une espèce d'algorithme géant qui est le cœur du jeu.
Le cœur du jeu.
Et qu'on choisit de faire fonctionner sur telle ou telle machine. Voilà. Et il y a certaines machines qui sont capables de faire fonctionner ce jeu de plus ou moins belle manière.
Ou mieux, ou moins bien.
Voilà. Parfois plus.
Pour moi, ceux qui tournaient le mieux, c'était les Neo Geo. Hein. Ils faisaient des portages exceptionnels.
Ah, les Neo Geo, c'était quasiment des machines d'arcade. Parce que dans les bornes d'arcade, il y avait des Neo Geo.
C'était la cartouche d'arcade.
C'était la même. Ouais, c'était la même chose.
C'est justement la puissance embarquée dans ce qu'on appelle le hardware, c'est-à-dire
le jeu coûtait plus cher que la console.
Machine était tellement puissante qu'elle permettait, avec le même code source, d'obtenir les meilleurs.
C'était l'identique, identique.
Mais voilà, donc là, il s'agit de portage.
De portage. Donc ça, c'est vraiment le portage. C'est le même jeu qu'on met sur différentes machines.
Avec plus ou moins de réussite.
Plus ou moins de réussite aussi, parce que faire passer des jeux assez gros sur une bande d'arcade sur une console pas très puissante, on va perdre en qualité.
Il y a de la dépérition.
On perd en animation, on perd en qualité. Technique, tout simplement.
Alors, perdre en qualité technique, on essaie de, pour essayer de donner
donc,
une image.
Ils essayaient de tricher avec des astuces pour que le jeu soit jouable quand même.
Mais... Oui, il y avait des filtres.
Voilà, ils
mettaient des filtres pour essayer
d'éviter. Ils enlevaient quelques éléments de décor, ils cachaient un peu avec des couleurs.
Des pixels plus gros.
Oui, et puis voilà, ils trichaient un peu.
Mais voilà, mais il y a eu la tendance aussi à un moment donné d'appliquer des petits filtres quand justement le pixel ressortait beaucoup trop gros parce que la console n'avait pas une qualité d'affichage suffisante. On essayait de tricher, en appliquant des filtres pour que le jeu ait l'air plus beau.
Et donc ça, c'est
mais en général,
la sonore qui
en fonction de la console à l'époque.
Le sonore aussi, bien sûr. Mais le portage, c'était vraiment quasiment la base de l'industrie, en fait. On faisait un jeu qu'on adaptait sur toutes les consoles, à part Nintendo qui avait ses propres jeux.
Justement, en fait, il y a un avantage économique au portage. Ce qu'on dit pas, c'est que si vous êtes, que vous soyez un studio de développement, alors, en général, le studio de développement, c'est celui qui fabrique. Et ensuite, il y a l'éditeur, c'est celui qui met sur le marché, qui fabrique les boîtes, qui distribue le jeu, qui fait la com, la production. Bref, que vous soyez votre propre éditeur ou que vous passiez par un éditeur tiers, peu importe, il y a un gros avantage à être présent justement sur plusieurs machines et à faire et à appliquer cette politique du portage. Parce que ça vous ouvre un marché de consommation qui est
donc de vente,
et donc de vente et de consommateur beaucoup plus important. Donc le portage, évidemment, il ne s'agit pas de refaire un jeu.
Non, c'est le même jeu.
Il s'agit de l'adapter à.
Donc ça, c'était vraiment la base de l'industrie au départ. C'était vraiment.
Est-ce qu'aujourd'hui, On a des exemples toujours, oui. Voilà, récents de portage qu'on peut donner à nos auditeurs.
À part les exclusivités Sony et Microsoft, tous les jeux sont quasiment sur toutes les plateformes maintenant. Hein.
Tu n'as plus de bornes d'arcade. Donc,
maintenant, les consoles.
Le portage, ça serait quoi? Ça serait de porter
ça serait
un jeu,
qui serait à la fois
une version
sur PC.
Pour le mettre sur. Oui, ou.
Non,
ou
pas forcément. Un jeu qui est développé aujourd'hui et qui est multiplateforme. C'est-à-dire qu'il va
avec
sortir à la fois sur Switch.
Avec les exclusivités, se rajoute un autre problème en termes de portage, puisqu'il y a des exclusivités.
Ah oui, non, mais là, voilà. Ouais, ouais. Effectivement, dans le cas des exclusivités,
mais c'est
les portages ne se.
L'âge d'or du portage, c'est ce que tu expliquais, Fred.
Oui, ouais, c'est ça. C'était vraiment les jeux d'arcade qui étaient portés sur toutes les consoles. Quoi.
Sur toutes les consoles de ouais. salon.
Et ordinateurs de l'époque. Quoi.
Ça, c'est pour le.
Donc, portage. Ça, c'est vraiment le portage. Ouais.
Est-ce que vous avez, comme ça, je le jette un peu à brûle pour point, un exemple de portage qui est complètement raté? Et qui, à un moment donné, voilà, il y a un studio qui essaye ou un éditeur qui essaye de porter un jeu sur une console et en fait, ça fonctionne pas parce que la console est pas assez puissante, parce que les rendus graphiques sont pas assez jolis, parce que c'est peu jouable.
Ouais, c'était en date pour moi, Cyberpunk sur PS4.
Ah, c'est ça alors. Ouais.
Ah oui,
c'est une tentative. Oui, exactement. C'est
un portage,
une tentative de
portage. Ouais.
Alors Cyberpunk, et t'as raison parce qu'il est sorti. 2020 je pense.
2020 et la console
et la PS4 elle ne le tient pas du tout.
Pas du tout.
Enfin les consoles.
L'Xbox aussi.
Les consoles qui étaient c'est pas des consoles old generation, c'est pas des old gen, c'était des plutôt des consoles de génération de current gen, de génération en cours.
Elle devait pas sortir sur ces consoles.
Et il n'aurait jamais dû sortir sur ces consoles.
Non,
c'était le Covid qui a fait que. Vu que l'industrie stagnait en termes de vente de hardware, donc ils ont fait un portage dessus pour essayer de maximiser les ventes.
Eh oui, parce qu'en fait, il faut expliquer ça. On est aujourd'hui certes à la PS5, mais à date, on est à 25 millions de consoles écoulées. Donc pour la PS5, et je crois que c'est une quinzaine de millions pour la Xbox Series, donc la dernière.
Donc on est très loin des chiffres de la PS4.
On est très très loin du marché de la PS4 qui a
plus de 100 millions,
plus de 100 millions de consoles installées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous sortez un jeu, vous avez tout intérêt à sortir, même si vous le sortez sur PS5, vous avez tout intérêt à faire un portage PS4 parce que économiquement,
c'est même obligatoire.
Vous ouvrez, voilà, exactement, à un marché.
C'est même obligatoire. C'est même
le parc de consoles PS5 n'est pas encore suffisamment installé, d'autant qu'il y a des problèmes de pénurie, les gens n'arrivent pas à se doter de.
Et encore, les gros titres de maintenant sont.
Le God of War, le nouveau God of War qui sort la semaine prochaine.
Il sort, oui,
ils sortent demain.
Alors, ils sont cross-gen, c'est-à-dire que justement, ils sortent, il y a un portage qui est fait pour les consoles de génération. Précédente, même si elle reste dominante en termes de nombre. Et
fin d'année, je pense que encore en 2023, pardon, il y aura ce phénomène-là qui va s'opérer.
Et en fin d'année, ça a été le cas hein, pour au début de la PS4, on fait justement des portages
PS3,
de générations précédentes. Mais alors, en vrai, le problème, c'est que aujourd'hui, c'était des jeux qui étaient développés pour Cyberpunk notamment. Il est développé pour tourner sur une machine plus puissante qui est la PS5. Et pour Xbox Series, mais aussi pour tourner sur des PC largement outillés pour le faire tourner. Et malheureusement, ils ont dans l'idée d'en faire un portage forcément de moins de qualité parce qu'on va aller sur des consoles moins puissantes. Et là, c'est le
crash total. C'était le drame.
Tu peux raconter comment ça s'est passé? Toi, tu as joué sur une de ces deux consoles ou pas?
Ah non, j'ai joué sur PC, uniquement sur PC. Ah, la version était bonne. Hein.
Moi aussi, j'ai joué sur PC. Ouais, c'était. Au début, il y avait quand même quelques bugs. Bon, là, c'était des bugs de développement.
Des bugs qui se règlent, mais c'est vrai qu'après sur PS4, rien qu'à voir les images, il n'y a plus de textures.
Les textures se chargeaient pas.
Le criard.
Les voitures. Rebondissait, il y a tout qui partait dans le
décor. Oui,
donc il y a vraiment. On aurait.
Une vidéo très drôle d'ailleurs sur les bugs de. Il y a beaucoup de vidéos très drôles dessus. Ouais.
Bon, donc ça, c'est pour le portage.
Donc, c'est vraiment l'exemple
type de portage raté. Est-ce que vous avez en tête un portage qui a été, je sais pas moi, particulièrement réussi ou une console qui réussissait particulièrement bien les portages? Tu disais Neo Geo.
Alors, non, moi j'ai plus vu que ça. Moi, le premier portage que j'ai vu, c'est Pac-Man. Sur la console d'Atari, la fameuse console marron. Alors, j'ai plus le nom en tête, c'est l'Atari.
2600
La 2600.
Ou la 800
Je sais plus.
Elle n'était pas blanche, là.
Non, moi, c'est ce que je dis, c'est.
Celle qui était en bois.
Ouais, couleur marron bois.
Peut-être 800, alors, je sais pas.
Et avec ce joystick à l'ancienne.
Hein.
Donc, je joue à Pac-Man en pensant que ça allait être le jeu d'arcade.
D'arcade, ouais.
Et je me prends une claque quand même. Ouais. Je dis bon, c'est Pac-Man, mais c'est pas celui-là.
C'est pas pareil. C'est pas mon Pac-Man
que je connais.
Non. Il y avait la musique qui s'est essayé de se débrouiller comme elle pouvait. Enfin bon. Et beaucoup plus tard, on va dire une petite dizaine d'années après, le portage qui m'avait pas déçu, mais où j'ai compris que ça marcherait jamais. Moi, je pensais qu'en achetant des consoles de l'époque, donc on est à l'époque début des années 90, donc Mega Drive, Super Nintendo, où on a les portages d'un grand jeu qui était en arcade, c'était Street Fighter 2.
Mmh. Ah, c'est celui qui avait connu, je pense.
Ou Street Fighter 3.
Le 2, c'est le plus porté. C'est peut-être le plus porté de tous les temps,
je pense. Je pense que oui. Toutes les machines l'ont eu.
J'ai naïvement cru qu'en achetant le jeu en console, j'avais pu mettre de pièces de monnaie dans mon arcade. Grave erreur. Parce que on avait le jeu à la maison, certes.
C'était touchant de naïveté.
Mais c'était pas pareil.
C'est Canada Dry.
La version du Super Nintendo était quand même plutôt pas mal.
Elle était correcte.
Moi, j'y jouais chez un copain.
Ça ralentissait quand même.
C'était pas bon, mais c'était quand même.
Mais le jeu était complet.
Le jeu était complet.
C'était rare pour un portage console.
Oui, sur Super NES, il se débrouillait pas mal.
Il y avait assez de boutons pour tout faire, alors que la Mega Drive n'avait pas assez de boutons, par exemple.
Il y en a trois.
Il y en avait que les trois.
Super Nintendo, il jouait avec les tranches. Ça permettait de tout faire. Donc il y avait tous les coups qui était quand même là, donc le portage était quand même bon.
C'est vrai qu'en plus, on en parlait dans l'émission précédente, on était encore dans une période où le standard de manette est pas du tout, la manette
oui,
est pas du
tout une chaque console avait sa manette.
Chaque console cherche encore la
meilleure façon.
Le meilleur agencement de boutons pour que ce soit le plus ergonomique possible, et il y a eu des tentatives que vous connaissez sans doute.
C'est Super Nintendo qui avait fait la première manette moderne, on va dire.
La manette à 4 boutons avec la croix directionnelle sur la gauche.
Les deux tranches.
Sur la 64.
Non, sur la Super NES.
C'était le problème.
Non, au contraire, sur la 64, il tente un truc.
Avec le stick
qui, au final,
qui est pas maladroit, après, mais.
Installe le stick analogique.
C'était le premier.
C'est eux qui l'ont lancé, d'ailleurs.
Mais le trident, l'a plus revu.
Non, quoi. C'était mal fait.
La manette trident, on l'a plus revu.
Après, on a eu des manettes spéciales pour le jeu. Parce qu'on a eu des manettes Street Fighter. C'est ces grosses manettes, ces gros.
Ah oui, j'avais comment les.
Ces plateaux, les pages, pour faire les.
C'était comment des sticks arcades.
C'était pas des manettes, on était plutôt sur des panneaux arcades.
Mais c'était déjà les manettes pro, quoi.
C'était dédié, c'était vraiment dédié au jeu.
Oui, après c'était. Plug and play dans le sens où tu branchais ça comme une manette et tu pouvais jouer comme si tu étais dans ta salle d'arcade, même si tu n'avais pas le même rendu à la maison. Deuxième tendance après le portage, on va parler du.
Après l'attaque, donc après c'est les conversions HD qu'on a connues.
Alors voilà, est-ce que le portage HD, est-ce qu'on est toujours dans le portage? Parce qu'il y en a eu beaucoup, je pense surtout moi à la
c'est
génération.
C'est une sorte de portage, c'est du portage aussi.
Une remasterisation.
Remasterisation, c'est arrivé après en fait. C'est Sony qui avait sorti sa gamme.
Tu es sur quelle
HD.
Période quand tu dis ça?
Là, c'est, on passe de la PS2 à la PS3 en fait.
Quel est le jeu qui installe le terme de remaster d'ailleurs?
C'est la PS3.
Mais il y a un jeu en particulier qui installe le terme. Je serais curieux de savoir quel est le premier jeu remasterisé dont on dit c'est un remaster. Mais on va vous expliquer dans un instant ce qu'est le remaster. Mais tu veux parler d'abord les portages HD.
Donc les portages HD, en fait, on profitait de la meilleure résolution des consoles et des télévisions pour faire un jeu, le même jeu, toujours pareil, c'était le même jeu, mais en plus joli, plus beau, plus lissé, des meilleurs décors, des meilleurs personnages.
Alors l'HD, on n'a jamais pris vraiment le temps d'expliquer ce que c'était. C'est vrai que c'est peut-être un peu technique, on risquerait d'entrer.
Mais disons, c'est qu'on est passé vraiment du CD au Blu-ray, en fait. C'est qu'on a eu commencé à avoir des espaces de stockage très élevés.
Oui, en fait, la console qui installe le format HD. Alors le format HD, si vous voulez, bon, évidemment.
1080p, la résolution
alors,
de l'écran.
Alors HD, pour haute définition, alors non, c'est du 720.
720.
C'est du 720.
Ah, ça a commencé au 720, exactement.
Voilà, la HD, c'est 720. Ça s'installe avec les consoles Xbox 360, PlayStation 3.
Voilà.
Et 720, en fait, ça veut juste dire qu'il faut imaginer que vous avez 720 pixels, en fait, en largeur de votre écran. Voilà. Et alors, le 720, il est multiplié par je sais plus combien en longueur, je sais plus. Mais en gros, en fait, quand on vous parle de la définition d'un écran, c'est ça, c'est le nombre de pixels que vous avez en largeur dans l'écran. Donc, la HD, c'est 720. Après, vous avez le Full HD, c'est le 1080 ou 1080p pour pixels. Ensuite, il y a je crois que c'est le QHD, c'est ce qu'on appelle la 2K, 1440 pixels. Et enfin, la 4K, qui est, pareil, combien? 2056, tu vérifies quoi?
Je pense, ouais.
2000 et quelques pixels en largeur, fois, on sait pas combien en longueur, mais bref. En gros, plus votre résolution est haute, plus votre degré de définition, plus votre niveau de détail est
important, et plus fin, de finesse.
Il y a plus de finesse. Et c'est ce qui fait que grâce à ça, vous pouvez regarder maintenant vos télés de très près. C'est moins gênant qu'avant, parce que, avant, quand vous regardiez de trop près, Votre œil s'abîmait parce qu'il essayait de faire le lissage, de faire le lissage mécaniquement, et là vous n'avez plus besoin de lisser quoi que ce soit.
La résolution 4K exacte, c'est 3840 x 2160.
Ah, donc c'est 2160 en largeur.
Voilà. Okay. Et il y a un autre, je vais juste rajouter pour compléter l'information. Avant, sur les premiers plasmas, il fallait une certaine distance par rapport à la taille de la dalle.
Ah ouais.
Donc, X mètres en fonction de ta diagonale d'écran. Alors, comme tu disais, Maxime, le progrès des pixels font que ça ne rentre plus en compte. C'est l'angle de vision. C'est-à-dire, c'est si tu as un 4K, tu mets 40 degrés de vision sur ta télé. Donc,
c'est ton champ de vision est à 40
degrés. Voilà, donc... C'est un calcul qu'il faut faire pour avoir 40 degrés de vision. Et si c'est du 1080p, donc la résolution en dessous, c'est 30 degrés. Donc, ça t'amène à reculer.
À reculer un peu.
Tout ça pour optimiser le confort de visionnage. Attention, hein. Il n'y a plus la règle établie comme elle était avant.
Oui, de temps de mètres, de distance.
C'est-à-dire que plus on s'approchait sur un plasma, c'était vraiment pas beau, c'était brumeux.
Eh ben écoute, merci de la
précision.
J'ai vu ça.
C'est beau, monsieur bricolage. Plus monsieur propre que monsieur bricolage d'ailleurs.
C'est les deux.
Donc le portage HD, il connaît son apogée.
Son départ, déjà.
On commence à entendre le terme au début des consoles de génération PS3 et Xbox 360.
Où là vraiment on attaque la HD, donc avec tous les portages des jeux PS2 qui ont été mis en haute définition, c'est-à-dire en 720p.
Donc là, c'était la résolution de l'époque.
C'était la résolution de l'époque, oui. C'était avec les premiers écrans LCD, premiers LED, premiers plasmas.
Oui. On sortait des cathodiques. Il fallait modifier le.
Et donc les jeux profitaient de la qualité d'écran qui était supérieure. Et donc on a eu une trentaine de compilation HD, donc avec les Metal Gear, les God of War.
Avec plus ou moins de réussite. Hein.
Là aussi, les Silent Hill sont ratés, par exemple. Parce qu'ils
étaient optimisés pour les tubes cathodiques.
Exactement. Voilà. Ils y profitaient justement du flou du cathodique pour jouer exactement avec le décor.
Et donc, on en a...
Et la HD...
On a FF10 que vous allez faire plus joliment parce qu'il a droit à son HD. On a MGS2, MGS3. On a eu, donc tu disais, les God of War.
Les God of War, Devil May Cry.
Et souvent, c'était l'occasion aussi de les mettre en compilation. C'est-à-dire
voilà, que il y avait trois
si
jeux,
vous étiez passé complètement à côté de la série, si par exemple, vous aviez raté Final Fantasy X et X2, ils étaient ensemble dans le pack HD.
Les Metal Gear, ils étaient tous, par exemple. Il y avait tous les Metal Gear sortis à cette
Moi, j'avais acheté le pack avec les 2 et 3, mais pas le...
Il y avait le combi, ouais.
Le premier était porté HD aussi, non?
Non, il n'était pas porté HD, mais il était dans le boîtier.
Ah, d'accord. Ouais. Okay.
Pour schématiser ces types d'écrans, que ça soit en cathodique ou en écran comme on l'a actuellement, essayez de voir, ne rigolez pas, essayez de voir Derrick à la télé.
Pourquoi on s'infligerait ça?
Essayez de voir Derrick.
J'aurais dit Colombo, peut-être, ça veut plus ça.
C'est pareil. vous avez la télé, l'image est erronée sur les côtés pour se remettre sur un format cathodique.
Ah oui, mais c'est l'image en 4 tiers.
Ouais.
Donc ces portages, ça reste du portage en fait. On commence à les appeler
Ils avaient mis quelques bonus, quelques.
Comment ils les appelaient d'ailleurs? Remake HD, non maintenant.
Non, c'était non. HD collection.
C'est
collection.
Ça. Ils avaient le. Puisque c'était le terme de télé pour vendre. C'est-à-dire, on est HD, une télé HD, haute définition.
Parce que Sony fait des télés aussi, et des lecteurs de DVD, de Blu-ray. Donc il fallait que le mot HD résonne.
Le Blu-ray qui arrive avec la PS3 justement permet d'avoir voilà quoi.
De mettre 4 jeux sur un Blu-ray par exemple. Voilà.
Et je pense que les vitesses de lecture aussi doivent être plus importantes.
Ah oui, il y a moins de temps de chargement. Voilà. Enfin, on optimise les temps de chargement sur les
Blu-ray PS3. On optimise les temps de chargement.
On est sur du Blu-ray PS3.
Ouais, Blu-ray PS3. Ouais, PS3. Déjà à l'époque. Ouais.
D'accord.
Ah, le terme d'HD a disparu maintenant au profit de.
Ben, un peu de remaster.
C'est un peu
le mot remaster qui a remplacé.
Oui, c'est
le
ça.
Mot...
Et le remaster justement, donc qui arrive à la fin de la génération PS3 quand on va basculer vers les PS4. Et pour des raisons de rétrocompatibilité, notamment, qui ne se fait pas d'une console à l'autre.
Ben, Sony avait ce gros problème-là sur ses consoles. Alors, c'était la PlayStation 4 qui ne prenait pas de jeu.
Parce qu'on n'est pas sur la même architecture.
Parce qu'ils vendent, il faut savoir pour la petite histoire que la PlayStation 3 est un fiasco.
Ah oui, enfin, commercial. Enfin, un fiasco.
Je m'entends, ce n'est pas la réussite.
Non, ce n'est pas du tout la réussite de la vie de la
console. Et puisque Sony restait sur des acquis avec le carton de la PlayStation 2, donc ils se font rattraper par Microsoft. et ils sortent la PlayStation 4 avec comme argument de vente pour attraper la mauvaise génération précédente, ce phénomène de rétrocompatibilité que proposait Sony, mais pas Xbox. C'était très compliqué à faire.
Et pourtant, la 4 ne lit pas les jeux PS3.
Non.
D'où les remasters.
Voilà. Donc,
ils vendaient la console avec cette possibilité.
En disant, vous aurez l'occasion.
Vous aurez la rétrocompatibilité pour démarrer, parce que les joueurs avec la méforme de la PlayStation 3, j'ai envie de dire comme ça, y allaient sur les freins sur la PlayStation 4. Hein.
Ah, moi, j'y suis pas allé d'ailleurs.
Les joueurs étaient chaudés. Les joueurs étaient assez chaudés.
Donc, c'est un argument de vente, mais qui était faux.
Avant de m'y remettre, c'est la génération de consoles qui me fait décrocher, parce qu'en plus, il n'y a pas de très gros titres.
La première année, PS4, il n'y a pas de gros titres, en fait.
Non.
PS3, à part The Last of Us, qui est un remaster de la version PS3.
J'ai envie de dire que c'est le jeu qui a...
C'est même le jeu qui a lancé la console.
Exactement. Justement, on va donner la parole un peu à Seb, parce que lui, qui est PCiste, il est moins concerné par ces histoires de
remaster. Il a moins ses problèmes.
Parce que nous, ça nous permettait.
Des joueurs
moi qui suis passé, par exemple, un peu à côté de la fin de génération PS3, à ce moment-là, je décroche, je joue plus et tout. C'est vrai que j'ai été content quand j'ai acheté une PS4 de me dire, OK, il y a des tubes PS3 qui ont été vraiment remasterisés, c'est-à-dire qu'ils ont été refaits avec des contrôles à la marge, des petits ajustements de musique, de son, de texture. Je peux rejouer à des tubes à côté desquels je suis complètement passé. Et c'est vrai que ça, c'est pas du tout valable dans l'environnement du PC.
Alors oui, c'est vrai. Bon, alors déjà pour revenir sur la The Last of Us, effectivement, c'est le jeu qui m'a fait acheter une PS3.
Ah ouais.
Bah, je l'ai acheté la PS3, mais la PS4 était déjà sortie. Je me suis pris une PS3 d'occasion parce qu'il y avait les exclus et les Uncharted, The Last of Us, c'était vraiment des jeux auxquels je voulais jouer. Et donc effectivement,
le film MGS qui est sorti sur PS3 qui t'a fait.
La
PS3,
c'est une console qui était hyper dure à programmer. Il y avait deux processeurs.
Ouais, c'était l'enfer.
C'était infernal. Et du coup, là, au niveau portage, c'était hyper compliqué.
C'était ça le flop que disait John, c'est que la console était extrêmement compliquée à développer.
L'architecture est
dégueulasse. Les mecs n'arrivaient pas à faire des jeux.
En fait, si vous voulez, quand vous faites un jeu, en général, quand vous changez un élément, normalement, cet élément, au moment où vous le changez, ça s'applique sur tous les filtres qu'il peut y avoir autour. Enfin, vous changez tel élément, ça se répercute automatiquement sur tout votre développement. Le problème, c'est que la PlayStation 3, apparemment, ça fonctionnait par strates.
C'était très compliqué.
Et dès que tu changeais un truc dans une des strates, ça s'appliquait pas aux autres. C'était une espèce de surcouche comme ça que tu empilais, et il fallait aller retoucher à la main, aller bidouiller.
C'était excessivement compliqué
pour développer.
Ouais, c'est ignoble. Alors que c'est vrai que sur PC, la communauté est tellement vaste que du coup, un portage de jeux vidéo, il suffit d'avoir une vieille version et un mec
dans son coin qui sait bidouiller.
Ah, exactement.
Il te fabrique un patch.
Effectivement, il y avait Skyrim, il y a encore des patchs 8K qui sortent aujourd'hui pour Skyrim. Alors, je sais même pas si on peut les faire tourner, mais bon,
un jeu de 2011
sans avoir de version remasterisée
qui a eu besoin d'être vendu qu'une seule fois sur PC. Alors
exactement,
que Skyrim,
tu l'achètes qu'une fois,
sa durée de vie, mais sur les consoles, c'est presque une horreur. Enfin, quand je vois que là, ils en ont fait une version PS5, Skyrim, il est sorti sur PS3.
4, sur PS5, sur toutes les Xbox,
pareil, il leur faut à chaque fois, voilà quoi, trois portages, sans plus que ce soit remasterisé là pour le coup.
C'est brut, c'est toujours pareil,
ils font des mises à jour un peu à la marge sur console.
Sur PC, il faut aimer la bidouille. Là, il y a un vieux jeu, un dogfight, X-Wing.
C'est quoi Alliance. Ça devrait être une étiquette de sur chaque unité centrale, dans chaque magasin quoi.
Si vous aimez la bidouille,
achetez un PC.
Bon, maintenant moins qu'avant, heureusement moins qu'avant.
Grâce à Steam aussi, où maintenant on peut même télécharger les mods directement sur Steam.
T'achètes les mods et effectivement, là,
X-Wing. Tu les télécharges gratuitement.
1995, l'année dernière, j'ai pris les mods avec les textures HD et tout ça, et la base du jeu, elle est de 95.
Tu peux faire ton propre remaster, du coup, tu fais ton propre remaster.
FF7, moi j'ai fait un FF7 Steam modé de tous les côtés, c'est vrai que tu joues à la meilleure version que tu pouvais imaginer.
Parce qu'il y a l'apport des joueurs, puis tu choisis ce que tu vas ajouter en plus selon tes capacités. Alors après, c'est beaucoup plus pénible quand même, il faut installer les packs, aller sur des sites perchés, de niche ou tu vois des. Enfin,
mais honnêtement, la meilleure définition tu l'as donnée d'anglais, quoi. Faut aimer la bidouille, mais c'est clair que c'est comme ça.
Ouais. Après, il y a des.
Faut être autodidacte en fait pour être un joueur PC.
Oui, une grosse communauté, monsieur.
Oui, une grosse communauté. Alors, soit tu l'es. Alors, maintenant, c'est vrai que tu as raison. Avec Steam, c'est beaucoup plus simple. Tu ajoutes le mode et puis ouais. Ça te l'applique. Et puis, si ça plante, si ça marche pas,
pour diverses raisons, tu désinstalles et puis voilà.
Après, il y a quand même eu, à un moment donné, dans les années 2000, ce passage à la HD, des vieux jeux comme Age of Empires qui sont ressortis estampillés version HD. Et là, c'était, voilà, c'était une amélioration pure des graphismes, des bruitages, enfin bon, mais c'est vrai que moi ce monde-là, je le connaissais pas jusqu'à récemment, où maintenant on commence quand même à voir des, au niveau remaster, on commence à avoir quelques jeux qui ressortent, des vieux point and click là comme les LucasArts, les Monkey Island qui ressortent en remasterisé pur et simple. Et mais
alors on parlera du pourquoi aussi après, parce que il se peut que ce soit aussi une panne d'inventivité complète chez les développeurs. Il se peut que ce soit la du gain, il se peut que ce soit des hameçons qui soient jetés comme ça, voir si ça prend, d'essayer de relancer des.
Mais d'un côté.
Des licences, enfin, il y a plein d'arguments qui peuvent expliquer.
Toi, d'un côté, là, pour, bah, par exemple, pour les Monkey Island, c'est pas plus mal, parce que ce sont des jeux qui ont 20 ans, et le fait de les ressortir graphiquement plus joli, ça attire un nouveau public.
Alors, ça aide à les faire connaître, parce que, comme tu dis, tu vois, il y a des pépites dans l'histoire bon des jeux vidéo.
Pour t'oublier complètement.
C'est aussi peut-être un bon signe de se dire que c'est une industrie qui commence à vraiment avoir un espèce de background, tu vois, un espèce
de. Oui, il y a l'héritage, oui. Il y a
une histoire, un héritage qu'on essaie de faire vivre en se disant, voilà, dans l'histoire du jeu vidéo, il y a certains classiques auxquels il faut avoir joué. On comprend que d'y jouer avec les contraintes techniques d'il y a 20 ans, ce soit pas hyper plaisant. Alors, on essaie de vous donner.
Surtout les gameplays qui étaient très rigides à l'époque.
Voilà, où en plus vous aviez des manettes qui n'étaient pas forcément toujours très.
On prend Resident Evil, par exemple, qui a été. Premier Resident Evil était assez rigide quand même. C'était compliqué, alors que les remakes qui ont été faits après étaient quand même plus agréables.
Alors justement, on va rentrer dans le remake. Avant ça, on va quand même conclure sur les, remasters en disant la chose suivante, c'est que ce que ne connaissent pas justement les PCistes, parce que le PCiste, lui, le joueur PC, il peut faire évoluer sa machine constamment. C'est-à-dire que à un moment donné, il est en manque de RAM, il peut la changer. Il est en manque de processeur, si ça met, encore une fois, si c'est un maître de la bidouille. Il change sa carte mère, il peut changer son processeur, il peut changer sa carte graphique, il peut changer sa RAM, il peut changer tout ce qu'il veut, se doter d'une machine un peu plus puissante et son jeu s'en trouve amélioré. Malheureusement, la PlayStation 3, pour ne citer qu'elle, certains jeux qu'il a sollicité tellement en fin de génération, notamment Uncharted 3 et The Last of Us qui faisait cramer des consoles, il y avait un intérêt à faire un remaster sur la console d'après parce que du coup, d'une part, on pouvait y jouer. On pouvait jouer confortablement, ça réduisait le temps de chargement, machin, ça l'améliorait, donc ça donnait aussi la possibilité à toute une génération, alors une génération peut-être pas, mais à des gens qui, comme moi, étaient passés à côté 5 ou 6 ans auparavant, de pouvoir les découvrir dans les meilleures conditions, etc. Donc, après le remaster, vient le remake. Et là, encore une fois, je sais que ces messieurs... vont encore nous parler d'une licence dont John a beaucoup parlé la fois précédente. Il s'agit de Resident Evil qui a connu, alors lui il a tout connu, il a connu le portage, il a connu la Director's Cut dont on parlera
déjà tout à l'heure. Il faut définir ce que c'est qu'un remake.
Alors le remake c'est quoi?
Alors l'idéal dans le remake c'est de reprendre un jeu, modifier son gameplay, évidemment l'embellir si possible, peut-être apporter un pan en termes de sur le lore ou sur la narration, quelque chose en plus qui va traiter d'un personnage du premier jeu qui est sorti. On va peut-être plus y aller sur ce personnage en faisant un petit détour sur le scénario qui va apporter un peu plus de
notre point de vue, peut-être
un peu plus de liant, un peu plus de consistant. Sur des personnages secondaires, pour la plupart du temps, c'est ça.
C'est souvent ça.
Tu dis Resident Evil pour ceux qui connaissent. On a un personnage secondaire qui est Ada Wong, qui à elle seule, on pourrait presque en faire un jeu, mais Capcom l'utilisait pour une partie de l'histoire.
Et elle a été introduite dans un remake.
Elle a été embellie dans un remake, c'est-à-dire que le jeu original où ce personnage sort. il est traité de manière
très simple. Ouais.
Voilà, simple. Alors que on pouvait pressentir que ce personnage-là, si Capcom l'aurait décidé, on aurait pu avoir un peu plus déjà à la base.
Oui, il pouvait apporter autre chose déjà.
Et comme les fans du jeu sont vraiment friands de ce personnage-là, c'est eux-mêmes qui apportent à Capcom l'idée d'en faire vraiment, de pousser le...
De pousser le personnage.
De pousser le personnage. Le remake, c'est ce qui a fait en son temps, à mon sens, la maîtrise technologique d'une machine. Tu parles de Resident Evil, le premier remake a fait vendre la nouvelle Nintendo de...
La GameCube.
La GameCube. C'était la publicité de la GameCube. Dire voilà.
Et ça consistait en quoi exactement ce remake? Qu'est-ce qu'il avait de différent par rapport au jeu original? Puisque si stricto sensu, on parle on fait un peu de sémantique.
Ouais.
Remake, c'est que vraiment, on le refait.
Eh ben.
Tandis que le remaster de tout à l'heure, c'est on le remasterise, ça vient
on
de
l'améliore.
Des studios,
on l'améliore.
C'est-à-dire on
l'améliore.
Là, on lui refait une beauté, on le voilà. Retape.
C'est-à-dire que le remake, c'est une amélioration plus dans tous les lieux que tu visites.
Mais c'est pas juste graphique.
Non, non, c'est même le scénario. C'est même...
Tu as le gameplay, c'est-à-dire que tu vas apporter, là où tu avais de la rigidité, tu as de la fluidité. Là où tu avais la caméra qui plantait,
une caméra fixe en plus.
Voilà, donc on a une caméra, alors elle est toujours fixe, mais il y a plus d'angles qui est pris en compte. Il y a plus de personnages, il y a un pan de scénario qui est rajouté. Il y a les personnages secondaires où il y a un traitement qui est un peu plus pointu. Et tout ça,
en autre terme,
c'est un autre
même
jeu.
Mais c'est
plus le même jeu. Finalement.
C'est un angle différent.
C'est plus le même jeu.
C'est un éclairage différent sur le même jeu.
C'est un autre jeu sur le même thème, sur la même partie du jeu. Ah, c'est un autre jeu.
Sur le Resident Evil 1, tu as un
pan, c'est plus le même
un
jeu
un
en fait.
Du jeu qui n'est pas dans celui d'original.
Donc si on pouvait faire une.
On garde l'âme du jeu si tu veux, on garde la structure.
Ils ont rallongé le jeu, ils y ont mis un autre personnage, un autre scénario sur le. Puisque c'est, pour rappel, Resident Evil, c'est très complotiste. Hein. C'est un laboratoire qui fait des expérimentations biologiques. Et dans ce remake-là, il t'apporte quelque chose de supplémentaire dans ce complot.
D'accord. Et si on fait un parallèle avec les films, est-ce qu'on peut dire que, par exemple, le portage ou les remasters dont on parlait tout à l'heure, c'est tu prends un vieux film...
Tu le colorises
ou tu le sors en Blu-ray ou avec une image peut-être plus fluide, plus retravaillée et tout ça. Tandis que le remake, ce serait tu prends un vieux film, tu refais le même film, mais éventuellement avec d'autres acteurs, avec des angles de caméra.
Tu sais ce que c'est. Tu as même changé le scénario, mais tu vois.
Tu changes le
scénario. Tu gardes l'esprit du film, tu peux garder que l'esprit.
Est-ce qu'on a un film là en tête qui pourrait un peu illustrer ce concept de remake? Il doit y en avoir forcément.
Non, les seuls films.
C'est très compliqué sur un film.
Tu peux pas remaker un film. Par contre, tu as des scènes.
Pourquoi tu pourrais pas remaker un film? Garder tel quel le scénario.
Non, c'est des. Je prends l'exemple du Seigneur des Anneaux.
Mais c'est le gameplay la différence.
C'est celui qui me vient. Quand tu fais un film qui dure 3 heures, quand tu as la direction de départ qui te dit voilà, tu as un temps entre 2h30 et 3h, tu fais ton film. Quand tu as Peter Jackson qui te fait ton film et qui dure 3h20, il est obligé de couper des scènes, de raccourcir un peu pour entrer dans les clous. Et tu as la version qui sort, alors souvent appelée Director Cut.
Ouais. Attends, prends un exemple. La planète des singes, il y en a bien deux qui sont sortis. Il y a bien un vieux et un nouveau. Sans rentrer sur la.
Oui, voilà, c'est un exemple de remake.
Tu vois, c'est un exemple de remake pour que les gens comprennent de quoi on parle.
Si tu veux faire.
T'as un film à l'origine qui a été fait, et c'est ou comme le
King
Kong, comme le King Kong tient de Peter Jackson.
Voilà, ou le King Kong, voilà, c'est
le King Kong.
Remake,
tu vois, il y a un King Kong originel.
Tu gardes vraiment l'esprit du film.
Voilà, tu gardes l'esprit du film.
Et dans le jeu, c'est pareil.
Tu n'as pas les mêmes acteurs, les mêmes angles de caméra.
Et t'as forcément la même intrigue aussi.
Mais à la différence du jeu, c'est que le jeu, tu reprends tes mêmes personnages, ton même environnement, et tu refais le jeu.
Mais c'est le cas aussi dans un film.
King Kong, il est complètement différent.
Non, mais bon, allez, King Kong. Mais, et encore que, ça reste un remake, puisque, au final, c'est l'intention. C'est la même intention que tu essayes de faire passer.
C'est la même idée, tu vois.
C'est difficile de comparer à un film et un jeu.
Je pense qu'il doit y avoir des Peplum, par exemple, qui ont été, en baignure. Alors, le
film,
nouveau est nul.
Tu dis pas que c'est un remake, un film. Un jeu, tu dis
non,
que c'est.
Non, mais c'est pour donner. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour donner à nos auditeurs qui sont pas.
Un point de comparaison.
Voilà, qui peuvent être des néophytes dans l'univers du gaming ou qui, je pense à un acheteur, un parent qui est un acheteur et qui voit sur une jaquette remake ou remaster ou reboot. Bon, reboot, il apparaît pas sur la jaquette.
Non,
mais,
pas encore.
et qui sache éventuellement, tu vois, à quoi s'attendre.
Alors,
pourquoi on fait la différence
Je vais te donner un exemple.
FF7, qui était un excellent remake.
Pour être sûr, toujours dans les films, en remaster, tu l'as comme sur un jeu, c'est-à-dire VHS, DVD, Blu-ray,
oui, voilà,
4K. Et à chaque fois, on paye plus cher l'un que l'autre.
Pour la même chose.
Pour la même chose. Et en fait, c'est juste embelli, mais il n'y a rien qui change.
C'est pareil.
Le remake, c'est tu prends ton jeu de base et tu l'améliores, tu rajoutes, tu enlèves, tu fais ce que tu veux. En film, tu pars sur toute autre chose. Hein.
Bah, moi, je ne trouve pas. Je pense que tu vois, le Dune, par exemple, qui est sorti l'année dernière, tu as la même intrigue, tu as les mêmes lieux. Tu as les mêmes, tu as la même histoire, mais tu as éventuellement un petit décalage, une autre vue.
Non,
une autre,
on l'appelle pas. C'est...
Oui.
Ben, il l'appelle pas comme ça, juste il l'appelle Dune.
Dans le cinéma,
ils vont l'appeler Dune.
Le cinéma, c'est jamais très vendeur de dire un remake. On n'aime pas trop dire ça.
Remake,
peut-être. Peut-être qu'il y a raison.
Le Dune de 2022.
Si on présente quelqu'un comme ça, c'est un remake, ils vont dire, ah ben, je l'ai déjà vu. Dans un jeu, c'est différent.
C'était très très bon.
Mais souvent. Et c'est ce que tu dis toi dans le jeu, c'est que dans le jeu, les gens vont retrouver leur personnage, le gameplay est plus ou moins adapté,
mais
ils vont avoir du bonus.
Une chronologie. Voilà. Tu parlais de Dune, le Dune, ils le font en deux ou trois films.
Ouais.
Et souvent, tu as ça pour des films qui
le premier Dune après.
La planète des singes, c'est pareil. Ils en ont fait deux ou trois, ou si c'est pas quatre. Donc, ils se servent d'un film iconique en son temps. Pour peut-être en améliorer.
Oui, refaire une franchise, maintenant c'est la mode d'une franchise au cinéma.
Voilà.
Ouais, mais tout tiens, à fait. Voilà, nous, on
rallonge le lore.
Je vois Total Recall, par exemple.
C'est le pur.
Non, s'il te plaît. Non, on l'oublie, celui-là.
Non, mais je donne les sept mercenaires.
Oui, oui, non.
L'armée des morts, tu vois. C'est tous des films, en un sens, même Ocean's Eleven, c'est presque.
Oui, c'est
un
les remakes
de l'arnaque.
Les années 60, hein.
Voilà. Le remake, en fait, c'est vous capter l'essence d'un jeu.
Sur un autre film, un vieux film.
Vous captez l'essence d'un jeu et vous lui donnez, voilà, tout ce que la technologie peut faire.
La Fantasy VII, on l'a tous fait, je pense que.
FF7,
c'est l'exemple type parfait du remake. C'est-à-dire qu'on garde les personnages, le lieu, et on en fait un autre jeu, en fait.
Un joueur qui va prendre un jeu remake, il va savoir que c'est un remake. Un cinéaste qui va voir un film.
Ça, c'est vrai.
Un jeune cinéaste, pas un ancien. Il va pas forcément savoir que c'est un
film qui date des années. Parce qu'on communique pas là-dessus.
La
communication n'est pas la même, tu vois.
Non, tout à fait. Et je pense que, comme tu le disais, c'est pas vendeur. Ça serait pas vendeur.
Alors que dans le jeu vidéo, c'est vendeur.
Ça l'est.
Parce que
ça peut crisper certains.
Les joueurs consommateurs, tirés consommateurs, voilà. Ils aiment bien retrouver leur personnage, leur endroit.
Oui. Parce que tu joues, tu t'identifies au personnage.
Voilà, t'es plus dans l'histoire.
Facilement.
Voilà, exactement.
Voilà quelque chose de vendeur. Et d'ailleurs, Seb, il le sait parce que je sais qu'il s'y est mis récemment. Je vous mets un peu dans l'ambiance, messieurs. Voilà, voilà l'exemple d'un remake réussi. Ça, c'était du remake.
Voilà.
Ça, c'était du remake. C'était l'occasion de réorchestrer. Ça nous donne l'occasion à nous aussi de parler un peu
pas
de musique. C'est pas grave, on t'en
veut. Mais alors, du coup, moi j'avais arrêté le premier Final Fantasy quand il est sorti, je crois que c'était en 2000. Hein.
Voilà, donc là, on vous a mis un peu de Final Fantasy, de la musique du remake Final Fantasy.
Je l'avais jamais fini parce que c'était un jeu qui était important dans tes consoles. Ouais, et là, je prends du plaisir vraiment avec le remake, mais en plus, je crois qu'il apporte beaucoup d'autres éléments.
Ah oui, enfin,
l'histoire change.
C'est-à-dire que dans l'original, tu t'arrêtais.
Pour le coup, c'est un vrai remake. Là.
Oui, à la fin de la ville de Midgard, tu t'arrêtais.
Puis, ils savent pas en combien ils vont le faire.
Non, ils savent pas.
Ils partent sur 3. Encore là, c'est un remake vraiment en freelance. Hein.
Ben, je sais pas si. En tout cas, ils pourront pas garder la structure du premier Final Fantasy VII.
Ah ben non,
par épisode, c'est impossible. Hein.
Mais là, ils changent carrément l'histoire. Pas du jeu, mais
du lore. Oui, il change tout. C'est peut-être ça le remake, c'est qu'on refait.
Là, le remake, c'est l'occasion.
Il y a une prise de risque importante.
Une grosse prise de risque, quoi. Bon, ça a été récompensé parce que les joueurs ont suivi, quoi.
Il y avait quand même.
Bon, l'effet nostalgie, l'effet nostalgie à jouer à fond.
Parce que je sais pas si
les nouveaux joueurs. C'est un jeu qui est depuis une dizaine d'années. Je sais pas si c'est 10 ans qu'on attendait le remake.
Si les joueurs du Final Fantasy VII. De remaker les jeunes joueurs comme nous on l'était à l'époque où il sort, si dans cette catégorie d'âge là il a marché autant que à l'époque quand il était sorti.
Ça, je sais pas. Mais ça a été un,
je trouve que c'est un bon jeune de l'époque, t'as raison, peut-être pas. Mais peut-être qu'ils sont allés jouer sur de la film nostalgique des uns et des autres. Mais en même temps, moi, c'est le jeu que j'ai attendu toute ma vie. Enfin, jusqu'à maintenant.
Oui, mais parce qu'on a un affect particulier.
Ah, mais absolument.
C'est l'affect,
mais,
voilà. D'ailleurs, c'est.
Mais j'ai été ravi de me dire, ils se sont pas cantonnés à juste proposer un remaster qui aurait eu aucun sens. Tu prends le jeu de 97 et même si tu le pimpes de la plus belle des manières, tu le ressors aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a aucune chance pour que ça marche comme ça a marché à l'époque. Donc, ils ont eu raison de se dire, non, profitons-en pour faire autre chose. Amener un autre éclairage sur le jeu. Et en plus, ils sont allés plus loin. C'est-à-dire qu'en plus, ils ont installé de nouveaux, de nouvelles entités qui sont presque les fans qui occupent le jeu tout du long et qui sont là pour dire, non, on veut que ça se passe exactement comme ça se passait dans l'original. Donc, c'est peut-être celui qui a poussé le remake plus loin.
Est-ce que le remake peut permettre aux fans ou aux joueurs de mieux patienter les suites éventuelles, parce qu'on a un Final Fantasy XVI qui va sortir sous peu, c'est-à-dire 2023, printemps 2023.
Vu l'histoire du développement de FF7 Remake, je suis même pas sûr qu'il ait fait tellement en se disant allez, c'est le truc facile qu'on a sous le coude et qu'on va sortir pour faire attendre les fans, parce que
entre le 15 et le 16, il se passe combien d'années?
Non, le 15 et le 16, il se passe beaucoup. Le 15, il sort en fin 2015.
Donc
le 16 en 2022 est toujours.
Et le remake, il est sorti quand? Il y a deux ans.
Le remake 2020.
2020. Donc ça peut permettre, puisque
c'est. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était un projet de tellement grande envergure que d'ailleurs il va sortir sur 3 CD, enfin en 3 jeux.
Et je t'annonce que pour moi, le Final Fantasy VII, il ne sort pas en 2023. Il
va écoute, ils l'ont annoncé. Moi j'ai envie de dire.
Il ne va pas concurrencer le 16.
J'ai envie de dire.
Moi je pense comme John, ils ne vont pas les mettre côte à côte.
Alors non, peut-être en fin d'année.
Non, il y en a un qui sort.
Ou peut-être en un début d'année, en fin d'année.
Ils ont dit hiver 2000.
Le 16, il est prévu pour printemps.
Mais ils ont dit printemps et l'autre hiver.
C'est les périodes fiscales. Pour ceux qui savent pas, c'est les périodes fiscales.
Ouais, 6 mois, ça paraît un peu court quand même. Hein,
c'est les deux périodes.
Sauf à dire qu'ils sont tellement sur deux sur le 16 et qu'ils vont attraper tellement de joueurs qu'ils vont vouloir leur dose de Final Fantasy 6 mois plus tard. Ce qui est pas impossible. Hein,
je pense que le 16 va remettre Final Fantasy sur le devant de la scène, vraiment remettre la marque Final Fantasy.
L'église au milieu du village.
J'espère que ce sera le Final Fantasy qui va.
Non, je pense qu'on espère.
Après le demi-fiasco du 15.
Il y a un autre remake qui était, pas mal, c'était Tomb Raider aussi.
Ah oui, c'est vrai qu'ils l'ont. Alors. Ah, voilà. Et justement, remake ou reboot?
Là, c'était. En fait, ils ont triché parce que
vous rajoutez une nouvelle couche.
L'édition, l'édition anniversaire, c'était Tomb Raider. Il est sorti, je crois, 8 ans après le premier qui était sur PC.
Ah, alors, tu dis pas le. Ah non, je pensais que tu parlais du PS4.
Alors, mais avant celui-là, parce que oui, alors celui-là c'est un reboot.
Alors voilà, justement.
Mais t'as le remake là, où en fait au bout de 8 ans ils te refont, ils te reprennent la mécanique de jeu, ils l'améliorent au niveau graphisme, mais ils ajoutent aussi des éléments du lore, parce qu'en fait Tomb Raider se crée un lore progressivement grâce à cette édition anniversaire.
Lore, donc univers. Hein.
Ouais, l'univers de Tomb Raider, et après de ce remake en fait, donc où franchement au niveau graphisme, au niveau gameplay, il y a quand même eu des progrès énormes, va découler le reboot.
Et le reboot, justement, parce que c'est pas un remake, c'est pas un remaster, le reboot en musique, le reboot, messieurs, ça va donner ça, et je pense que là aussi vous allez l'avoir assez rapidement. Non, ça c'est Final Fantasy, c'est pas du tout Final Fantasy que je voulais vous mettre, c'est ça que je veux vous mettre, les amis.
God of War.
Eh oui, God of War. C'est le grand Kratos. Parce qu'il a eu droit à son reboot, God of War.
Ouais, d'ailleurs, ils l'ont pas appelé 4.
Ils l'ont pas appelé 4 parce que c'est un reboot de la série. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, un reboot, les amis? Ben, c'est puisque tu avais la parole, c'est quoi un reboot?
Un reboot, donc on réinitialise, on repart avant, en fait.
On reprend de zéro. On fait comme si.
Alors, on reprend de zéro ou on peut-être qu'on rajoute aussi
en termes de narration peut-être
des éléments sur le qui sont passés avant les premiers épisodes d'un jeu.
Et on se permet aussi de changer totalement même la philosophie d'un jeu.
Et on peut se permettre de changer effectivement la philosophie d'un jeu,
même si il reste lié aux autres quand même God of War.
Oui.
Ouais. Alors, c'est un reboot qui reste quand même lié à l'histoire principale.
C'est vrai qu'il reste quand même.
Il y a un pont qui est fait.
Alors ça c'est que pour. C'est un après.
C'est un après. Moi, je trouve que c'est intelligent puisque ça permet aux joueurs de la première heure de pas s'y perdre,
de
faire une petite
transition.
Exactement. Et ce qui peut amener aussi aux nouveaux joueurs à s'y intéresser et de dire tiens, ce qui est raconté là, je vais le voir moi en jouant.
Pourquoi Kratos un vieux jeu. Chaînes, c'est bizarre.
Tu prends le cas de Tomb Raider, justement. Celui qui sort sur PS. 3, 4, le Tomb Raider tout court, là,
avant. Ah oui, God of War, c'est ça. Il y avait déjà eu un God of War tout court, puis God of War depuis 3, et fini par sortir sur PS4, God of War, donc à nouveau, comme si c'était un premier opus, un redémarrage.
Ouais, en fait, exactement, avec Tomb Raider. Là, c'est un retour sur les origines de Lara Croft, pourquoi elle est devenue archéologue, pourquoi elle est costaud, et en fait, tu t'aperçois qu'au début, en fait, c'est une toute petite fichetive qui savait rien faire du tout, et elle a été un peu élevée à la dure et on découvre ça dans cette aventure-là. Et effectivement, tu modifies un peu son histoire.
Oui, tu peux te permettre davantage de liberté.
Tout à fait. Et après, tu repars sur un... Alors, c'est ça qui est dur avec un reboot. C'est que tu dois être quand même lié...
Un
équilibre entre ce qui a déjà été fait.
Et un héritage qu'on respecte.
Ça, c'est un peu comme les Star Wars, quoi.
Mais justement,
c'est difficile d'effacer ce qui a été fait.
Oui, mais j'allais faire justement ce parallèle-là. Alors, pas la prélogie 1, 2, 3, mais par contre la nouvelle trilogie Disney, on en pense ce qu'on en veut, j'ai pas apprécié spécialement, mais l'épisode 7 particulièrement, enfin le premier de cette nouvelle trilogie, il ressemble beaucoup à un reboot du 4.
Les trois,
ils sont conçus de la même façon.
Exactement le même arc narratif que les trois anciens, quoi.
Mais le premier, il réinstalle vraiment.
À tout, ouais. Parce qu'il veut, il veut rattraper le les fans perdus.
Le personnage principal qui est sur sa planète.
Il a très maladroitement. Il a attiré les jeunes. On veut...
Mais est-ce que c'est pas un peu ça le rôle du reboot aussi?
Non, parce que ça, c'est un reboot raté.
Exactement.
Non, le bon et les mauvais reboots. Il aurait été bon s'il était sorti avant les autres.
Non, mais sans doute. Mais est-ce que c'est pas l'occasion quand on fait un reboot qui s'appelle Star Wars, God of War ou Tomb Raider?
Le reboot, c'est soit de redonner un coup de fouet à une saga, soit de la relancer parce qu'elle se perd sur tes derniers jeux. C'est un exercice qui est très risqué, c'est très peu maîtrisé par.
Ah mais quand ça paye, c'est génial de se dire. T'as l'occasion de jouer un autre jeu.
Ça paye, hein.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que God of War, par exemple, c'était pas des mauvais jeux. Ils avaient une très bonne presse en général, hormis... Bah,
le 1, il cartonne.
Le 1, 2, 3, ça cartonne.
Ça cartonne sur le PC.
C'est juste qu'à un moment donné, tu as des développeurs qui disent « Bon, on a un peu tout dit sur ce personnage ultra masculin, bourrin, qui fracasse les dieux. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre avec toujours le même personnage, mais qu'on place dans un environnement différent ? On lui met une caméra où on va le filmer différemment. Il va avoir des relations humaines et un truc qu'on n'avait jamais exploré jusque-là.
Il s'inspire de Devil May Cry.
Il a vraiment un éclairage différent.
God of War s'inspire de Devil May Cry dans le jeu. C'est-à-dire que quand tu as ton personnage qui avance, tu as une caméra, alors, à la Resident Evil, mais...
Caméra à l'épaule.
Mais fluide. C'est-à-dire que ça...
Tu parles des anciens. Des anciens God of War.
Ouais, le premier, par exemple.
Le premier, ouais.
Il s'inspire de Devil May Cry. Parce qu'il y a des arènes. C'est-à-dire que tu ne vas pas te servir du décor pour t'attirer le...
Oui, la caméra est bloquée. Et
voilà. Donc ça t'impose au combat. Donc
c'est caméra fixe. Hein.
C'est attention, c'est éprouvant comme jeu. Hein. La main, là, elle en peut plus à la fin de la journée.
Ah, oui,
hein. Et il s'inspire de Onimusha. Tu te rappelles d'Onimusha?
Oui,
avec ses esprits, tu sais, qui venaient.
Onimusha avec Jean Reno.
Avec Jean Reno, tout à fait.
Et Jean Reno dans
Onimusha.
Je crois.
Exactement, oui. Qui inspirait les âmes, qui donnait, c'était la monnaie du jeu, quoi.
Voilà, mais la même chose que God of War.
Voilà. Et ces deux inspirations-là ont fait que God of War, plus la mythologie grecque.
La mythologie grecque qui marche toujours.
Tu vois.
Une belle réalisation.
Ils auraient pu rester là-dessus. Ils auraient même pu faire un reboot en gardant leur personnage principal.
Mais tu t'arrêtes jamais d'une saga qui marche. Tu ne t'arrêtes jamais.
Mais ils auraient pu ne pas s'arrêter et faire un God of War.
Non, ils ont changé la forme.
De cette façon-là.
Ils ont voulu jouer
dans la mythologie grecque. Eh ben non.
parce que
ça ils l'ont amené dans le
les, Nord, les Tomb Raider quand il sort la série Anniversary, ça devait être le dernier jeu. Il devait pas rebooter.
Alors, il faut dire aussi que parfois, faire un reboot,
parce c'est aussi, perdu le jeu, hein.
c'est aussi l'occasion de tester, comme on disait tout à l'heure, voir si,
si
la licence est toujours vivante. Si on est capable de la
vendre à une nouvelle génération. Parce que les joueurs sont des consommateurs, hein. C'est comme au cinéma.
Si on est au rendez-vous, quoi. Si les joueurs.
Mais il y a des sommes folles qui sont mises en investissement. C'est quand même un pari.
Alors, l'avantage aussi d'un reboot, c'est d'avoir déjà une licence dont on a déjà le personnage, on a déjà plus ou moins le background, enfin son histoire,
que les joueurs connaissent
à peu près, que les joueurs sont familiers avec un personnage, on a déjà un univers, tout un environnement qui est construit autour. Donc pour un studio, développer un reboot, bon,
c'est rassurant.
C'est aussi rassurant parce que c'est pas une nouvelle IP comme on dit, c'est pas une nouvelle.
Non, sur des jeux aussi marqués comme ça, aussi connus, le reboot est pas trop risqué.
Ça peut valoir le coup.
Ça peut valoir le coup de le tenter du coup. Voilà. Après, ils ont mis beaucoup de moyens sur God of War.
C'était colossal quand même.
Ils ont mis des moyens énormes. Sony était derrière aussi pour la réalisation. Donc,
c'était le jeu killer de la
console. Quoi.
C'était mérité. On termine sur les Director's Cut. On m'a dit juste un petit mot avant de se laisser pour terminer cette première partie de l'émission.
Oui, pour moi, c'est enlever une censure qui est pseudo-censure qui aura été dans le jeu.
En revanche, c'est un terme qui vient du cinéma, hein, director's cut.
Exactement.
C'est alors avant on l'utilisait pour dire bon.
Laissez-le couper.
Voilà, j'ai voulu faire un film. Le studio a décidé de couper certains de mes films, mais voilà, moi ma vision de réalisateur, c'était avec tout
c'est
ça.
Le montage définitif.
Montage définitif.
Dans le jeu, ils ont pas coupé les scènes.
Eh ben.
Ils rajoutent.
Voilà, c'est pour ça que le terme est un peu impropre parce que c'est pas exactement ça dans le monde du jeu vidéo.
J'ai pas trop de souvenirs, moi, des jeux.
Alors, Resident Evil, ils l'ont
fait. Récemment, ils l'utilisent beaucoup.
Ils l'ont fait sur le 1. Oui. La version Director's Cut de Resident Evil. Tu as exactement la même chose. Alors là, c'est ni remaster, ni rien. Et ils ont rajouté des scènes.
Cinématiques seulement?
En cinématique et en gameplay où c'est un peu plus horreur. Ouais. Tu vois un peu plus des choses. Mais. Très léger.
Dans le monde du jeu vidéo,
c'est surtout
ça n'a rien à voir.
C'est un côté commercial.
Ouais,
c'est
la collectionnite, ça fait.
On remet les jeux sur les rayons.
Aujourd'hui, la Director's Cut, quand je prends les deux exemples plus récents, moi, qui me viennent en tête, c'est Death Stranding et Ghost of Tsushima. Les deux qui ont eu leur Director's Cut, ils l'ont eu quand ils sont sortis sur PS5. Ouais. Et en fait, c'était simplement un DLC caché, quoi. C'était un DLC maquis, c'est-à-dire que. Un petit contenu additionnel pour l'un comme pour l'autre qu'on vous met sur la console premium du moment parce que
donc la définition n'est pas exacte.
Sur Death Stranding,
c'est pour ça que le terme je le trouve plutôt impropre. Il se rapproche pas tellement de.
Non, c'est un terme commercial, c'est tout.
Voilà, ça se rapproche pas vraiment du concept du cinéma.
C'est 10€ de plus par jeu, hein.
Ouais, c'est la version.
Death Stranding, c'est même ridicule ce qu'ils ont rajouté sur.
Il se suffisait à lui-même. Je sais pas, je l'ai pas fait.
Oui, ils ont même rajouté une piste de carte alors que donc c'est. Ils apportent du fun dans un jeu qu'il n'avait pas et qui suffisait à lui-même. Quoi.
C'est comme la bagnole volante des FF15, quoi. On aurait pu s'en passer.
On peut s'en passer complètement.
Eh bien, merci messieurs. Hein
merci
c'était magnifique.
Merci à vous.
Qualitatif aujourd'hui, dites donc, surentraîné en super forme. Eh bien, écoutez, pour les auditeurs d'RCC, on vous remercie, on vous dit à dans 2 semaines. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, ben, comme d'habitude, hein, peut-être que vous êtes des années après cet enregistrement et donc vous aurez la deuxième partie tout de suite, on ne sait pas. Enfin, si vous nous écoutez dans un mois, ce sera le cas. Hein, vous aurez les deux parties. Donc, voilà, si vous êtes en podcast, on vous dit à tout de suite. Si vous êtes à la radio, on vous dit à dans 2 semaines. Merci les amis.
Merci.
À très bientôt.
Bonne soirée.
Ciao, ciao, ciao. Bonne soirée.